explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
C'est l'histoire d'un photographe et grand reporter fasciné par les contrées lointaines. Au gré de ses reportages et de sa curiosité, il se rend en Nouvelle-Zélande, en Géorgie du Sud ou encore à Madagascar. Sa boussole intérieure le pousse toujours plus loin, du Spitzberg à l'Antarctique, en passant par la Patagonie. Et puis un jour, notre photographe voyageur, Olivier Joly, trouve une terre qui fait battre son cœur plus fort qu'aucune autre ne l'avait fait auparavant. Un endroit unique au monde où l'omniprésence des forces telluriques lui donne l'impression de respirer plus profondément. Ce lieu dont il tombe amoureux, c'est l'Islande. Depuis plus d'une dizaine d'années, Olivier Joly arpente cette île volcanique en tous sens et en toute saison. Au fil de ses voyages, il a fini par délaisser les panoramas de cartes postales et les sites touristiques surpeuplés. Il s'est enfoncé dans les paysages rudes et sublimement désertiques du cœur de l'île. Il a partagé des moments de vie forts avec les habitants, comme le Rietir, la grande transhumance de fin d'été. De cette décennie de voyages et de rencontres, est né un superbe livre de photos en noir et blanc intitulé « Saga » aux éditions Emeria. Cet après-midi, Olivier Joly nous emmène à travers les champs de lave, les vallées perdues et les fjords à la découverte de cette terre de glace et de feu dont il est tombé éperdument amoureux. Claire Tesser a préparé cette émission, Stéphanie Texier la réalise, avec à la technique aujourd'hui Rémi Sistiaga. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Daniel Fievé.
Il n'y a qu'une seule chose sûre avec l'Islande, c'est que l'Islande n'est jamais le même du matin au soir. Ça change constamment. Avec le vent, la pluie, la fonte de la neige dans les montagnes, les cascades, les chutes, les rivières qui changent. Il faut dire qu'Islande, c'est pas stable. Au point de vue climatique et géologique, tout change. On dit que quand le bon Dieu a créé toute la terre, il s'est dit, tiens voilà, là je me mets à créer un terrain dans lequel je vais disperser des exemplaires de tous les phénomènes de la nature dans un seul endroit. Et alors, il s'est mis à créer Islande.
La voix de Ragna Sveinsdóttir, une professeure islandaise. Bonjour Olivier Joly.
Bonjour Daniel.
L'Islande, un pays en perpétuelle transformation qui rassemble tous les phénomènes naturels. C'est aussi l'impression que vous avez eue en parcourant ce pays depuis une dizaine d'années.
Absolument, elle dit vraiment tout, cette dame. L'Islande, c'est un pays où on se sent extrêmement vivant parce que tout est changeant. Donc c'est une terre qui est en constante évolution. On le voit en ce moment avec le volcan qui redessine les paysages tout proche de l'aéroport. C'est une terre où le ciel est absolument immense. Je pense à Roger Caillois, l'écrivain, qui disait « Je rends grâce à cette terre qui laisse autant de place au ciel ouais. ». Il disait ça de la Patagonie, mais c'est aussi valable pour l'Islande. Donc c'est un lieu qui est extrêmement mouvant. Les nuages sont en constante promenade dans le ciel.
Le temps change perpétuellement.
Il change perpétuellement. Il y a un dicton islandais qui dit « Si tu n'aimes pas le temps qu'il fait, attends 5 minutes ouais, ». Donc c'est tout à fait ça. Effectivement, on peut avoir en plein été des bourrasques de neige. On peut avoir en hiver une très belle journée froide mais claire où on voit à plus de 100 km. Tous les sens sont en éveil lors d'un voyage en Islande et je crois que ça contribue à ce que les gens adorent ce pays. Ils se rendent compte tout à coup qu'on peut à tout moment être sollicité, le regard, le toucher, l'ouïe, le vent sur le visage et ça c'est très particulier à ce pays.
Alors c'est une terre très jeune hein, du point de vue géologique. Quand s'est formée cette île ?
L'Islande s'est formée entre 25 et 15 millions d'années. Donc vous voyez que la Terre a environ, je crois, 4 milliards d'années. Les géologues confirmeront ça. Mais voilà, donc c'est une Terre extrêmement jeune. On a vu par exemple en 1963 surgir une île des eaux, une île qui s'appelle Surtsey, qui est réservée à l'exploration scientifique. Mais c'est aujourd'hui, je vous dis, ce volcan Fagradalsfjall qui, jour après jour, déversait sa lave et faisait changer le paysage jusqu'à menacer les habitations des villages voisins. Donc c'est ça l'Islande, c'est une Terre qui bouge en permanence.
Et en tant que photographe, grand reporter, vous avez, hein, je le disais, parcouru le monde. Et vraiment là, vous avez trouvé quelque chose que vous n'aviez éprouvé nulle part ailleurs.
C'est vrai, j'avais eu un avant-goût, on va dire, de ce plaisir intense d'être dans ces paysages vastes en Patagonie. Mais l'Islande rajoute tout cet aspect géothermique qui est très particulier. C'est une île qui est à 99,7% volcanique. Donc autant dire qu'il y a tout petit peu de roches sédimentaires dans une péninsule du bout de l'Islande. Mais pour le reste, c'est un pays totalement volcanique. Donc on le voit évoluer au fil des éruptions. Je crois que la moitié des laves qui ont été crachées par les volcans de mémoire d'homme l'ont été en Islande.
Incroyable, hein. C'est vraiment un lieu unique au monde. Et vous vous êtes intéressé, pris de passion pour des zones moins fréquentées que les autres, hein, du point de vue touristique, le cœur de l'Islande, le centre de l'Islande, des zones immenses et désertiques.
Absolument, la moitié de l'Islande, quasiment la moitié du territoire de l'Islande, c'est-à-dire un dixième de la France, l'équivalent de 10 départements français, c'est ce qu'on appelle les Hautes Terres centrales. C'est une zone qui est fermée 9 mois par an, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y accéder en véhicule, on ne peut pas y accéder à pied non plus parce que c'est recouvert de plusieurs mètres de neige. Donc cette terre-là est préservée 9 mois par an. Les Islandais guettent avec beaucoup d'impatience le jour, qui pour moi est d'ailleurs le premier jour de l'été, le jour où on peut enfin accéder à nouveau à cet espace de nature qui pour eux est quelque part le cœur battant de leur pays. C'est là où l'activité volcanique est la plus intense, et c'est là quelque part où ils sentent battre le cœur de leur pays.
Et alors, décrivez-nous ces paysages, c'est très noir en termes de couleurs, qu'est-ce qu'on a là?
Ce sont des paysages en bichromie, c'est-à-dire il y a essentiellement du noir volcanique, donc de scorie, de cendres, de lave. Et puis, il y a aussi des mousses. Alors, les mousses, ça donne des couleurs qui vont du jaune pâle au vert intense, selon l'hygrométrie, selon en fait l'humidité qui a gorgé ces mousses. Et ça donne des paysages absolument fantasmagoriques. C'est-à-dire, on peut voir des montagnes noires partout avec des striures comme ça de mousse verte. Donc, c'est vraiment des paysages d'héroïque fantasy comme on peut les voir dans les bandes dessinées, par exemple.
Alors, la couleur qui domine, hein, c'est ce noir. Dans un précédent ouvrage de photographie intitulé « Quatre saisons en Islande », vous nous aviez donné à voir ces paysages en couleur. On voyait, hein, ce vert fluorescent tranché sur ce noir. Avec ce nouveau livre « Saga » paru aux éditions Emeria, vous avez fait le choix du noir et blanc. Je vous propose d'entendre la voix d'un poète et romancier islandais que vous citez dans votre ouvrage, John Kalman Stephenson. Il évoque la noirceur des paysages de l'Islande.
Ce qui est essentiel ici, c'est cette couleur noire, mais en même temps toujours changeante, qui change tout le temps. Et le sentiment qu'on a peut-être en contemplant ce paysage, c'est un sentiment très mêlé. On ressent à la fois une immense joie et une terreur sans fond. Parfois, quand on regarde cette couleur noire de gel, noire charbon, qui a été pressée, compressée par des énergies folles, les énergies de la Terre, on a le sentiment que la nuit elle-même habite les lieux. On pourrait dire qu'ici, c'est la nuit du monde et que nous nous tenons debout sur la nuit du monde.
Le poète et romancier John Kalman Stephenson, Olivier Joly, vous avez ressenti ce qu'il décrit ?
Complètement, oui. Ces paysages islandais, ils donnent la main à nos états d'âme, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'ils peuvent être parfois profondément tristes, mais en même temps, il en émane une forme de lumière qui fait qu'ils sont extrêmement vivants. Donc même dans ces paysages très noirs, très sombres, très austères, on se ressent pleinement vivant. C'est ça qui est étonnant, sans doute parce que le ciel y a une grande place, la lumière aussi. Jon Kalman Stephenson est probablement l'écrivain qui rend le mieux cette beauté austère de l'Islande. Et il y a un peintre aussi qui s'appelle Georg Gudni qui a retranscrit parfaitement ces lumières. C'est-à-dire que parfois le ciel et la terre fusionnent presque. Et ça donne des paysages vraiment extrêmement étonnants.
C'est parce que vous vouliez nous faire ressentir cette beauté austère dont vous parlez que vous avez choisi le noir et blanc pour nous montrer l'Islande?
Oui, j'avais fait donc dans mon livre « Quatre saisons en Islande » quelque part le tour des saisons, des régions. C'était un livre assez exhaustif, qui était quelque part un livre de voyage, on va dire plus classique. Et puis au fur et à mesure que l'Islande devenait plus touristique, c'est-à-dire qu'on a vu jusqu'à plus de 2 millions de voyageurs, c'est-à-dire 7 fois la population islandaise, dans les années 2016, 2017, 2018... À mesure que les lieux que j'aimais étaient envahis de touristes, il faut bien le dire, et d'autocars, je me suis dit, il est temps de m'éloigner. Donc c'était une démarche très personnelle. Et en même temps, j'ai vraiment vu de plus en plus l'Islande en noir et blanc. Et ouais. Je me suis aperçu qu'en mettant dans mon viseur du noir et blanc, je voyais les choses très différemment. Et j'ai moins rendu hommage finalement dans ce livre saga aux couleurs et aux lumières de l'Islande ouais. qu'aux textures, aux matières et aux impressions que donne ce pays.
Mais alors vous renoncez par exemple aux aurores boréales avec un livre en noir et blanc?
Pas totalement, il y a une photo d'aurore boréale, vous verrez.
Mais je l'ai vu, mais elle est moins grandiose que si on la voyait
vrai,
avec ses
couleurs.
C'est vrai,
c'est un choix. Les aurores boréales font partie du plaisir d'un voyage en Islande, c'est vrai. Moi, je me lève très très tôt le matin, donc il arrive parfois que j'ignore les aurores boréales en plein milieu de la nuit. Mais c'est vrai que là, j'ai plus été chercher des matières et des impressions que des couleurs ou des choses plus grandioses, on va dire.
Le résultat est saisissant. Hein. Certaines photos ressemblent à des gravures. Avec le noir, vous faites ressortir la lumière de certains paysages de façon assez éblouissante. Nous avons mis quelques-unes de vos photos sur la nouvelle page Instagram du Temps d'un Bivouac que vous nous avez gentiment offerte, et puis aussi sur notre page Facebook sur franceinter.fr. Il y a aussi des portraits d'Islandais. Hein, dans votre... Ce ne sont pas uniquement des paysages. Vous vouliez aussi aller à la rencontre des habitants.
Complètement. Pour moi, un voyage en Islande, désormais, est forcément lié à ses habitants. J'y ai des amis qui m'ont aidé à rencontrer d'autres personnes. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'Islande, pour moi, est très liée aux personnages qui la peuplent. C'est un peuple très réduit. Hein. Il y a 360 000 Islandais environ, dont 350 000 locuteurs de cette langue. Et vous vous rendez compte que c'est l'ancêtre du viking. Et ouais. Aujourd'hui, il est encore parlé par 350 000 personnes qui défendent vraiment cette langue. C'est vrai donc que le noir et blanc, le choix d'aller faire des portraits. Curieusement, je reçois beaucoup de témoignages de gens qui ont lu ce livre et qui sont plus touchés peut-être qu'ils n'ont été par 4 saisons en Islande, parce que ça s'adresse plus à l'intime, à l'impression chacun peut ressentir cette image, plus que mon livre précédent montrait, celui-ci suggère plus, et je crois qu'il a touché beaucoup de gens par justement la simplicité, la rudesse du noir et blanc.
Alors on aura l'occasion de découvrir quelques-uns des Islandais dont vous avez croisé la route et dont vous avez fait le portrait. Parmi eux, il y en a un plus connu que les autres, c'est le chanteur Asgeir Trausti. Vous l'avez rencontré dans quelles circonstances, ce chanteur ?
Asgeir, j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour le journal du dimanche une première fois, puis pour le journal suisse Le Temps. Donc ouais. On s'est vu 3 fois. Il m'a notamment une fois invité chez lui. Ouais. Alors il habite un petit appartement tout simple en banlieue de Reykjavik, à l'extrémité de la zone urbaine de Reykjavik, c'est-à-dire tout proche d'un champ de lave. Et en fait, quand il n'est pas en tournée mondiale, eh ben, il est chez lui, il écrit ses chansons et il va se balader dans le champ de lave, ou alors il prend un petit summer house, comme ils disent, c'est-à-dire un petit cottage au milieu de la nature, et c'est là qu'il écrit ses chansons.
Ouais, il le dit, hein, que ses chansons sont connectées à la nature et au monde invisible. Les collines, le ciel et les tempêtes font partie de ma personnalité et de ma musique, dit-il.
Complètement, oui. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que ce garçon tout simple, il vient d'un petit village qui s'appelle Gvamstangi, vraiment un minuscule village islandais. Sa mère, elle est organiste dans les églises de la région, et son père est un poète. Donc c'est encore un pays où on distingue les poètes, et c'est son père qui lui écrit les paroles de ses chansons.
Je vous propose de l'écouter chanter Asgeir en version islandaise, bien sûr, le temps d'un bivouac au cœur de l'Islande avec le photographe Olivier Le Joly cet après-midi sur France Inter.
Vetrarbyljir buldu Við byggðum hús úr snjó Og manstu er við öll Okkar þorpi frá Skutum stút á skauta Hver skemmtilegt var þá Tjörninn undir í sig Eins og spegil gá Og manstu kyrlát kvöld Er komið sumar var Og allir léku yfir Og engum leitist þar Nú geymast mér í minni Myndir bernskunar
Le chanteur islandais Asgeir qui chantait Bernskan dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
Au cours de l'été, les moutons remontent les pentes pour brouter l'herbe fraîche qui apparaît à mesure que la neige fond. Ils remontent comme ça jusqu'au glacier.
Ce qui rend l'été islandais aussi splendide, c'est qu'on assiste à une explosion de vie. La végétation jaillit d'un coup.
Une journée pareille dans ma vie d'éleveur, c'est une très grande fête. On a nourri les moutons tout l'hiver, les brebis ont mis bas, et là on les lâche dans la nature et on ne les revoit pas avant 2 mois et demi. Pour moi, il n'y a pas plus belle saison que celle-ci. Je suis comblé.
Le retour de l'été en Islande. Notre invité, le photographe Olivier Joly, a sillonné l'Islande en toute saison. Votre précédent ouvrage s'intitulait « 4 saisons en Islande » aux éditions Favre. Ça ressemble à quoi l'été en Islande ?
Alors, ce qui est amusant, c'est que les Islandais marquent le début de l'été, théoriquement, au premier jeudi qui suit le 18 avril.
Ah oui, c'est précis.
Ils suivent en ça l'ancien calendrier norrois, le calendrier des Vikings, et c'est un jour férié. Voilà, le premier jeudi qui suit le 18 avril, nous voilà en été, en général, il neige, il est hors de question d'aller se mettre sur la plage ce jour-là, mais c'est le début de l'été officiel. Et puis ensuite, ils guettent avec impatience l'arrivée du pluvier doré, qui est un petit oiseau migrateur sur leur côte. C'est le premier, en fait, qui rejoint l'Islande, et pour eux, c'est le signe que le printemps est là. Donc, l'arrivée du pluvier doré, on le voit en général très loin, il est filmé, et ça fait l'ouverture des journaux télévisés.
Ah oui, oui. Mais il y a énormément d'oiseaux migrateurs qui reviennent à la belle saison en Islande. C'est vraiment un porte-avions ornithologique, cette île.
Absolument, il y a environ 300 oiseaux migrateurs qui reviennent. Alors le plus connu, évidemment, c'est le macaremoine, qui est devenu le symbole marketing de l'Islande. Celui qu'on voit le plus, c'est peut-être la sterne arctique. Alors celui-là, il est très particulier. Vous savez, c'est un tout petit oiseau qui fait 150 grammes. Qui fait 75 000 km chaque année, puisqu'il va des zones antarctiques aux zones arctiques, et qui a la particularité de défendre son nid. Il niche au sol, et donc dès qu'un promeneur s'approche de son nid, il l'attaque. Il l'attaque réellement.
C'est-à-dire que ça vous est arrivé, pour prendre des photos, parfois
Ça m'est arrivé au point d'être piqué au sang, par le bec d'une sterne arctique.
Sur le crâne.
Il
tombe en piqué. Absolument. Sur le crâne. Et au-delà de ces oiseaux migrateurs qui reviennent, sur l'île, la végétation, également explose.
Oui, c'est la renaissance de l'Islande de manière générale. Notamment, l'île est couverte de lupins. Alors les lupins, vous savez, c'est ces grandes fleurs mauves qui ne sont pas endémiques, qui viennent d'Alaska. Elles ont été emportées en 1945 pour stabiliser les sols. Ouais. Et elles se sont senties tellement bien qu'aujourd'hui, elles ont essaimé partout. Donc même dans les hautes terres, on trouve des lupins. L'Islande est bleue complètement pendant les mois de mai, juin. C'est assez impressionnant. Et puis il y a aussi toutes ces petites plantes. C'est même dans le désert, c'est ça qui est fou. Il y a un désert totalement minéral. Et ben les plantes arrivent quand même à naître et à croître comme ça. Et donc il y a des minuscules plantes qui sont au ras du sol, c'est leur résilience à elles. Il ne faut pas qu'elles soient trop ambitieuses, il faut qu'elles restent très basses parce qu'avec le vent, sinon elles ne résisteraient pas.
Et dans les hautes terres, eh bien c'est ce moment-là où on lâche des moutons, mais alors par milliers, par centaines de milliers. C'est la première transhumance, ils retrouvent les pâturages des hauts plateaux.
Oui, absolument. Les Islandais, historiquement, ce sont des pêcheurs et des éleveurs. Ouais. Donc les moutons, chez eux, ont une grande importance. Une petite anecdote, il y a quelques années, un programme télé qui a consisté à mettre des webcams dans toutes les bergeries du pays pour suivre l'agnellage. Mmh. Et ben, ça a fait une des meilleures audiences de l'année, simplement de regarder ces petits agneaux venir au monde. Mmh. Donc, pour les Islandais, les troupeaux ont une grande importance. Et l'été, effectivement, et ben, ils les mettent dans les camions. Et puis, hop, ils les lâchent sur ces pâturages immenses, sans fin, que sont les hautes terres, les hautes terres centrales.
Et puis, ils restent là après pendant 2 mois, 2 mois et demi. Et quand arrive la fin de l'été, et bien, il faut aller rechercher ces moutons. Cette transhumance du retour est un moment très fort dans la vie des Islandais. Beaucoup y participent. J'entends les chevaux qui arrivent sur les hauts plateaux.
Tous les chevaux n'ont pas les qualités requises. Celui-ci est un des meilleurs. Seuls 5% de nos chevaux sont capables de participer à la transhumance.
Christine repère rapidement les premiers moutons. Berglind le rejoint avec la remorque. Erlendur doit faire descendre les moutons avec l'aide de ses 3 border collies.
C'est tellement génial de faire descendre les moutons des alpages.
Au pied de la montagne, les autres rabatteurs attendent les moutons pour les attraper.
On va passer de l'autre côté.
Rassembler les moutons, ça peut être très amusant ou très ennuyeux. On doit parfois aller au bout de soi-même. Il arrive qu'on soit totalement épuisé.
Joyeux et épuisant, hein, ces grands rassemblements que l'on appelle les rietir pour cette transhumance de fin d'été en Islande. Olivier Joly.
Oui, je suis très heureux d'entendre cet extrait de reportage parce que j'étais à côté des journalistes d'Arte quand elles ont tourné cette scène.
C'était un reportage d'Arte qui s'intitule « Des montagnes et des moutons ».
Oui, c'était en 2012. C'était mon premier rietir. En fait, c'est un peu par hasard que j'avais vu un jour sur un désert noir des chevaux passer. Je m'étais demandé ce que c'était. On m'avait expliqué que c'était des chevaux qui servaient au rassemblement des moutons. Donc j'ai cherché par la suite à savoir de quoi il s'agissait. Le rietir, c'est une coutume qui a plus de 1000 ans d'âge. C'est-à-dire que les premiers Islandais se sont rendus compte qu'il fallait se donner la main pour réussir dans ce pays. Et donc, ils vont à chaque fin d'été, comme vous le disiez, chercher les moutons qu'ils ont lâchés. Et c'est l'occasion d'un grand rassemblement. C'est une grande période pour la communauté. Il y en a environ 200 dans l'île. Dans chaque petite région, en fait, on va chercher les bêtes qu'une dizaine de fermes ont lâchées ensemble. Ouais. Et donc, chacun, on va d'abord récupérer l'ensemble de ces bêtes. Donc, dans la région où je les ai suivies, ils sont environ 6000 moutons. Et ensuite, on se les répartit selon les fermes.
Ouais. Alors, il faut bien imaginer, hein, c'est immense l'endroit où ces moutons ont été relâchés. C'est des reliefs très escarpé, et c'est un boulot monstrueux d'aller rechercher tous ces moutons dans la nature.
Ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Il faut plusieurs montures par éleveur, parce que la tâche est tellement épuisante, comme le disait cette dame. On est là donc au cœur des Hautes-Terres. Moi, j'ai suivi ça dans la vallée de la Jökulgil notamment, qui est une vallée fermée complètement 364 jours par an et qui n'ouvre que ce jour-là aux véhicules. Alors pour accéder au fond de cette vallée, il faut traverser une vingtaine de fois une rivière au flot assez tumultueux. Donc il est fréquent en fait que les voitures s'enfoncent et qu'on soit obligé d'aller les tirer. Les chevaux ont de l'eau parfois jusqu'au poitrail, c'est vraiment très impressionnant.
Et ce sont des chevaux particuliers. Ça aussi, on l'apprend en lisant votre livre, des chevaux que l'on ne trouve qu'en Islande.
Absolument, oui. Il n'y a pas un seul cheval qui est entré en Islande depuis l'an 982.
Incroyable.
C'est-à-dire depuis plus de 1000 ans. En fait, on s'est aperçu pour que les chevaux puissent survivre dans cet environnement très particulier, à la fois d'un point de vue climatique et géologique, il fallait qu'ils soient parfaitement adaptés. Donc on a laissé s'affiner cette race, qui à l'origine venait de Norvège et des îles Féroé essentiellement. Donc les chevaux islandais, c'est des petits chevaux, c'est techniquement des doubles poneys, ils ont un pelage très épais, ils ont beaucoup d'endurance, ils ont 5 allures qui leur permettent en fait de faire des courses très très longues.
C'est-à-dire qu'en plus des allures qu'on connaît chez nous, le trot, le pas, le galop, eux ils en ont deux de plus.
Voilà, ils ont le tölt et l'amble, qui sont en fait deux allures qui leur permettent de faire des courses sans trop se fatiguer. Donc ils peuvent comme ça passer des journées de plusieurs heures à aller dans les montagnes, donc sur les terrains vraiment extrêmement, terrains à la fois minéraux, caillouteux et très escarpés.
Et il y a vraiment des Islandais qui viennent de la ville pour participer à ce grand rassemblement. Je crois que l'âge minimum auquel on a le droit de participer, c'est 14 ans. Et c'est vraiment un passage, c'est un rituel, c'est un passage à l'âge adulte.
C'est quasiment un rituel, effectivement. Donc les gamins sont très impatients d'avoir le droit de participer au rietir. Ce qui est très marquant, c'est que c'est quelque chose de totalement mixte. Donc les femmes font exactement les mêmes tâches que les hommes. On entendait parler de Christine. Christine, c'est le chef des fermiers de cette région, on appelle ça le roi de la montagne. C'est un titre qui fait un peu rire, comme ça, un peu sourire, mais c'est un titre très prestigieux. C'est l'homme qui connaît le mieux la région, qui connaît le mieux les éleveurs, qui connaît le mieux le comportement des bêtes, et donc c'est lui qui donne les ordres, en fait, qui répartit les tâches. Il faut imaginer qu'ils sont dans l'équivalent d'un département français, couvert de montagnes, couvert de vallées, de canyons, de rivières à traverser, et qu'il faut là-dedans aller chercher plusieurs centaines de têtes de bétail, voire plusieurs milliers selon les endroits où ils se trouvent. Et les années, par exemple, où il neige, mais c'est une tâche incroyable parce que détecter ces petits flocons blancs dans un paysage enneigé, c'est une tâche extrêmement difficile.
Alors, ça illustre bien hein, ce rietir, le rapport très fort que les Islandais entretiennent encore aujourd'hui avec la nature. Et ce lien, on le retrouve aussi dans le choix des prénoms.
Oui, les prénoms islandais sont complètement baignés de nature. En Islande, on a très fréquemment deux prénoms. Le premier prénom, vous savez qu'il est choisi dans une liste très officielle de prénoms. Et le deuxième, il est très souvent lié à la nature. Alors ça peut être un glacier, ça peut être glacier, ça peut être vague, ça peut être le nom d'un volcan, comme Katla, Askja, qui sont des grands volcans. Et c'est aussi très souvent des noms d'oiseaux. Alors par exemple, il y a Örn, aigle, qui est un prénom masculin. Il y a Kria, stern, qui est un prénom féminin. Loa, pluvier, on en parlait. C'est un prénom très, très fréquemment donné, Loa. Et puis il y a, je crois que c'est le seul, le Svanur et Svana, cygne, qui est un prénom à la fois masculin et féminin.
On poursuit nos pérégrinations au cœur de la nature islandaise avec le photographe Olivier Joly, le temps d'un bivouac sur la plus grande île volcanique du monde.
De la douceur de tes mots, j'ai gardé juste le meilleur. Pour mes erreurs, les jours de trop, je n'ai jamais été à l'heure. Si les messages et les rancœurs restent ancrés dans mes os, parfois je pleure en décalage, j'aime l'amour vertigo. Je suis passée par le banc là où l'été est tombé entre toi et moi. Jour après jour, j'en fais le tour. Pourquoi j'ai peur, je paraphrase. Pourquoi je pleure en décalage. J'aime l'amour vertigo.
C'était Vertigo de Alexia Grady.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
Ah, le moment est magique. Hein. Marcher dans l'une des failles de la Rift Valley de Þingvellir, la vallée du Parlement. Ce lieu pour les Islandais est un lieu symbolique puisque c'est dans cet amphithéâtre naturel tectonique que les premiers Scandinaves installés ici ont réuni le Parlement des Parlements, c'est-à-dire la réunion des parlements locaux qui avait lieu tous les ans au mois de juin pour se réunir et prendre leurs grandes décisions. Mais c'est surtout une des fractures dans l'écorce terrestre les plus spectaculaires de la planète. D'un côté, la plaque océanique qui pousse le continent nord-américain, de l'autre côté, la plaque océanique qui pousse le continent européen. C'est vraiment, vraiment une perspective incroyable.
Le géologue et photographe Arnaud Guérin évoluant dans cette plaine du Parlement Tingvellir, un lieu que vous connaissez, Olivier Joly, ça a l'air grandiose, décrivez l'endroit.
C'est un lieu grandiose, oui, c'est effectivement là où on aperçoit la faille entre les deux plaques tectoniques. C'est une grande plaine occupée par un lac, un superbe lac, aux eaux très claires, très poissonneux. Et puis quand on va dans cet endroit, on entend l'écho, par exemple, des voix, et on imagine ce qui s'y passait. C'est-à-dire que dès l'an 930, les 36 chefs de clan, à l'époque, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de comte, il n'y avait pas d'autorité suprême en Islande. Donc les 36 chefs de clan se réunissaient chaque année au mois de juin. Ça durait environ un mois. Certains mettaient 15 jours à cheval pour venir. Et ils se réunissaient là pour écrire et dire les lois. Alors, écrire les lois, c'est par exemple, en l'an 1000, décider que désormais le christianisme serait la religion officielle, et non plus le paganisme qui avait cours jusqu'alors. Et puis, dire les lois, c'est prononcer des condamnations. Donc, pendant très longtemps, la condamnation la plus sévère était le bannissement. Donc, on envoyait les condamnés au fond du désert, ils n'en revenaient pas. En général, ils passaient un hiver au mieux, mais en général, ils ne passaient pas l'hiver. Ouais. Et ensuite, il y a eu des condamnations à mort. Et ce qui est drôle, c'est que dans ce pays de grande parité, les femmes étaient noyées et les hommes se voyaient couper la tête.
Ah oui, vous trouvez ça drôle? Oui, je ne sais pas si
il n'y avait pas de parité dans la peine capitale.
Ouais. Et quand sont arrivés les premiers humains en Islande, Olivier Joly?
Alors, on estime que les premiers à être venus, ce sont des moines irlandais qui venaient rechercher l'isolement propice à la méditation, au rapprochement de Dieu. Et puis, ça, c'était autour de l'an 780. Et puis, quelques décennies plus tard, ils ont vu débarquer des Vikings venus de Norvège. Et là, très légitimement, ils ont pris leurs jambes à leur cou, ils sont rentrés chez eux. Et donc, c'est une population viking qui s'est installée là, autour de l'an 870 environ.
Mais ils ont du mérite, hein, ces Vikings, d'être arrivés et d'être restés là. Parce que au début, ils ont dû s'adapter et faire face à des conditions dantesques.
Ah oui, il faut imaginer ce qu'ont vécu ces colons-là. D'abord, c'est un pays qui est quand même subpolaire. Donc, même s'il est sous le cercle polaire boréal, il est quand même froid, il est battu par les tempêtes. Et puis surtout, il y a tous ces phénomènes naturels qui faisaient que du jour au lendemain, on pouvait avoir sa ferme qui était emportée par une éruption, par un glissement de terrain, par une avalanche. Donc, les Islandais ont toujours vécu au corps à corps, finalement, avec cette nature très puissante et elle fait partie d'eux-mêmes.
Et dès le début, hein, dès le Xe siècle, il y a une éruption majeure qui a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui sur cette île.
Oui, complètement. Il y a l'éruption de Helgeão, qui est une des deux plus grandes éruptions historiques de l'Islande, donc a créé une faille profonde de 600 mètres, qui est un endroit absolument magnifique dans les hautes terres qu'il faut aller visiter. Donc celle-là, ça a été la première grande éruption. Et puis ensuite, les Islandais ont traversé ce qu'on a appelé la longue nuit, ouais. C'est-à-dire une suite finalement de cataclysmes, des maladies. Ils ont eu la peste noire, et ils ont eu la petite vérole, et puis ils ont eu une suite d'éruptions, dont une très grosse éruption en 1875, c'est le volcan Askja. Donc ça a créé un lac qui est aujourd'hui un des plus beaux endroits de tout le pays. Mais ça a poussé le Danemark à s'interroger sur le Danemark qui était à l'époque la puissance coloniale, qui s'est interrogé, est-ce qu'il ne faut pas rapatrier ces gens qui vivent dans des conditions vraiment apocalyptiques?
Et ces conditions apocalyptiques ont eu des retentissements sur toute l'Europe, hein, parce qu'il y a une éruption au XVIIIe siècle. On dit qu'elle est en partie responsable de la Révolution française.
Oui, ça c'est l'éruption du Laki, qui a duré 8 mois entre 1782 et 1783. Elle a créé un énorme nuage de cendres qui a tourné autour de la planète pendant au moins 2 ans. Ouais. On estime que ça a fait 1 million de morts indirectes.
De famine, parce que voilà. Le climat a changé. Quoi.
Complètement, le climat a changé. Cette année-là, à Paris, je crois qu'on a eu moins 25 degrés, par exemple, l'année qui a suivi l'éruption du Laki. Donc vraiment, ça a été un événement majeur dans l'histoire de l'Islande et même dans l'histoire de l'humanité. Alors, c'est un peu une extrapolation de dire que la Révolution française a été provoquée par ça, mais les mauvaises récoltes des années 1784-85, assurément.
On comprend que la devise des Islandais, ce soit « tout va s'arranger ».
Oui, c'est arrêtas, tout va finir par s'arranger. Ouais. Ça veut dire qu'on va passer par des moments difficiles, mais ça va s'arranger. Et c'est ce qui leur a permis, notamment, quand ils ont connu encore récemment un cataclysme à l'échelle d'un pays qui est l'énorme crise financière qu'ils ont traversée, qui a vidé les comptes en banque de tous les particuliers, et ben ils se sont retroussés les manches et 10 ans après, ils avaient retrouvé le niveau de vie qu'ils avaient avant.
Alors, leur environnement les a façonnés, à commencer par le climat, comme le raconte la chanteuse islandaise Emiliana Torini.
En Grande-Bretagne, les gens parlent de tempête quand il y a juste un peu de vent.
Mais ici, lorsque tu as 6 ans et sur le chemin de l'école, tu es obligé de t'accrocher à un lampadaire pour ne pas t'envoler. Dehors, c'est la tempête de neige. J'adore ça. Il y a d'énormes contrastes ici. Et je crois que ça se retrouve aussi dans les gens. Tu grandis ici, c'est le paysage qui t'accompagne partout et qui forme ton caractère et ta personnalité. Ça se retrouve dans la musique. C'est dans le sang.
La chanteuse Emiliana Torini, que notre réalisatrice Stéphanie Texier adore. C'est quelque chose que vous avez constaté, l'influence des éléments sur le tempérament des Islandais que vous avez rencontré, Olivier Joly.
Oui, complètement. Moi, ce qui m'amuse en entendant ce témoignage, c'est que ma fille, ma grande fille, me parle encore d'une tempête qu'on a connue ensemble, où elle avait peur que si je lui lâche la main, qu'elle se soit envolée à ce moment-là. Ouais. C'était des vents à 120, 130 km/h. Donc c'est vraiment ce qu'elle raconte. Ma petite a été scolarisée à Reykjavik et c'est vrai que là-bas, en 7 ans, l'école a été fermée 3 jours parce que le reste du temps, on laisse les enfants se confronter au vent, aux tempêtes, aux bourrasques, aux blizzards. Et ils sortent quel que soit le temps. Et quand aujourd'hui, à l'école, on lui dit « Oh non, il pleut, on va peut-être pas sortir », elle est stupéfaite. Ouais. Donc c'est vrai que les Islandais, ils assument complètement ce rapport fusionnel, très fort, très puissant, au climat.
Vous parlez dans votre ouvrage de tempêtes où on voit voler les chats. C'est une expression où vraiment on voit voler les chats en Islande?
En général, on les rentre, mais ça, on pourrait voir voler les chats, vraiment.
Ouais, c'est quelque chose qui arrive. Alors, vous avez photographié justement ces Islandais, vous êtes allé à leur rencontre. Il y a une femme, notamment, dont vous dites, là, je la photographie, mais dans quelques jours, elle sait qu'elle va se retrouver seule dans sa ferme pour plusieurs mois, seule face aux éléments.
Complètement, oui. On était dans les fjords de l'Ouest à ce moment-là, en reportage pour le magazine Géo. Et donc, c'était un riétir, un tout petit riétir.
Une transhumance
des moutons. Elle accueillait chez elle les volontaires qui étaient venus donner un coup de main. Elle rassemblait son troupeau. Et puis, à ce moment-là, elle offrait une soupe de mouton, qui est le plat traditionnel dans ces circonstances. Et elle racontait que, passé ce jour-là, elle attendait la première chute de neige et dès la grosse première chute de neige, la vallée serait fermée. Et donc, elle serait complètement isolée pendant environ 6 mois. Alors, il y aurait peut-être un membre de la famille qui viendra la voir avec une motoneige, mais c'était même pas sûr. Elle s'apprêtait à vivre ces mois de solitude. Et c'est vrai que je trouvais que dans son regard, elle regardait par la fenêtre et il y avait toute la nostalgie, en même temps la force de cette femme qui ressortait.
Seule face aux éléments, vous avez aussi photographié. C'est là où on a l'impression vraiment d'avoir des descendants de vikings, tels on se les imagine. Un homme plongeant dans l'eau des fjords glacés tous les jours.
Complètement, il s'appelle Magnus, il est le gérant d'un hôtel qui s'appelle l'hôtel Djupavik. C'est un tout petit fjord dans le nord-ouest du pays, c'est un endroit isolé, il n'y a pas de route bitumée pour accéder à cet hôtel. Et chaque jour, effectivement, quel que soit le temps, il se baigne, mais il ne se baigne pas 2 minutes pour dire, il se baigne une vingtaine de minutes. J'ai une photo de lui nageant jusqu'à un ponton et plongeant depuis ce ponton. On a l'impression que c'est un gigantesque oiseau. Et tous les jours, alors il y a un petit côté nouveau viking, ils pensent que c'est excellent pour la santé, que leurs ancêtres faisaient ça et ils s'astreignent à ce genre de discipline, ouais.
Pour la plupart des Islandais, cette nature si vivante est habitée par des êtres surnaturels. L'Islande est aussi le pays des elfes, des trolls. Vous allez nous dire si vous en avez rencontré au détour d'un geyser, Olivier Joly, dans un instant.
Make it right now.
C'était Curtis Harding qui chantait Can't I Eat sur France Inter. Et merci à Valentine Chédebois qui signe la programmation musicale du temps d'un bivouac.
Qu'est-ce que c'est? C'est une source d'eau chaude?
Oui, oui.
Ah oui, ça bouillonne.
Ça commence maintenant un peu. Et dans une minute, il faudra écarter car vous voyez...
Ça va monter très haut?
Très haut, jusqu'à 15 mètres.
Et c'est de l'eau très chaude?
Oui, très chaude, presque bouillante.
Ah,
vous voyez? C'est un peu comme le Grand Cher. Toute la terre, tout le terrain d'Islande est volcanique. Il paraît que les Vikings ont été ravis et effrayés en même temps quand ils ont fait connaissance
de
découvert ces phénomènes-là.
Les chiens ont peur, là.
Oui, oui, tout le monde a peur. Et vous voyez, c'est pas très haut encore. Dans une minute, ça sera le double. Dans trois minutes...
On va se pousser, peut-être,
oui,
alors.
Je pense.
Et gare aux geysers islandais, Olivier Joly. Ces geysers sortent de terre avec une régularité de métronome, hein. C'est assez étonnant.
Oui, en ce moment, toutes les 5 minutes, on peut en voir un jaillir à une 15-20 de mètres. Ouais. Ouais. C'est un endroit qui s'appelle Geysir. C'est un des trois mots, d'ailleurs, pour l'anecdote, qui est venu de l'islandais en français. Il y a donc geyser, saga, le mot pour désigner ces textes historiques, et eider, vous savez, c'est le nom du canard dont les plumes sont utilisées pour remplir les duvets et les doudounes. Ouais.
Ce mot saga, hein, qui nous vient donc de l'Islande, c'est ce mot que vous avez utilisé pour intituler votre ouvrage de photographie. Quelle est l'histoire de ces sagas islandaises, à quel point elles sont importantes dans le récit historique local?
Alors, les sagas, elles racontent la cosmogonie de l'Islande, c'est-à-dire la construction de ce monde. Elles racontent beaucoup les croyances, les folklores islandais. C'est des récits de KPDP écrits en prose, dans une grande qualité littéraire. On estime que ce sont les plus beaux témoignages littéraires du Moyen-Âge. Ouais. Mais les sagas, c'est aussi des textes dans lesquels on peut retrouver les noms des premiers colonisateurs, des quelques centaines de premiers colonisateurs de l'Islande. Et c'est encore quelque chose qui sert aujourd'hui à établir les liens de parenté. Il n'y a jamais plus de 6 degrés de cousinage entre deux Islandais. Et il y a d'ailleurs un site en ligne où on peut taper deux noms et savoir à quel degré on est cousin.
Alors, il y a cette grande histoire de l'Islande, et puis il y a aussi les croyances, l'Islande avec ses geysers, ses aurores boréales et ses éruptions volcaniques, à de quoi, on le comprend, enflammer l'imagination. Beaucoup d'Islandais croient réellement aux elfes, à l'image de Ragnhildur Mandel.
J'ai toujours vu les elfes. Un jour, lorsque j'avais 2 ans, on rentrait à la maison et je me suis mise à pleurer. Et j'ai dit, non maman, non, Pulda est restée dehors. Ma mère, qui n'avait jamais entendu ce nom, a ouvert la porte et a laissé entrer quelqu'un qu'elle ne pouvait pas voir.
En Islande, les elfes ont leur mot à dire dans les affaires des hommes. Il y a quelques mois, ils auraient protesté contre la construction de cette route. Et c'est Ragnhildur, leur ambassadrice, qu'ils auraient choisi pour porter leur voix.
Salut Gunnar. Je vois que vous avez bien réduit le tracé de la route, comme je l'avais demandé.
Vous voyez le monticule, juste là? En fait, toute cette partie aurait dû être explosée. On a donc rétréci la route de 3 à 5 mètres, afin que le sanctuaire des elfes ne soit pas détruit.
Extrait de l'émission Échappée belle sur France 5. Ce n'est donc pas uniquement du folklore, hein, cette histoire d'elfes. En Islande, on peut modifier le tracé d'une route pour ne pas déranger les elfes, Olivier Joly.
Oui, ça a été le cas dans la commune de Hafnarfjordur, qui est pas loin de Reykjavik. Effectivement, on a déplacé le trajet d'une route pour protéger des rochers dans lesquels vivent ce que les Islandais appellent les êtres du peuple caché, le Huldufolk. Donc ça inclut effectivement les trolls, les nains, les elfes. J'étais assez dubitatif sur cette histoire. Il y a évidemment un tout petit côté marketing, mais ma plus grande amie islandaise m'a raconté que ça lui est arrivé une fois dans sa vie de voir des elfes. Elle m'a décrit une scène comme si elle la vivait encore aujourd'hui, donc j'ai plus grand respect. Ces croyances, elles remontent quand même à des choses très réelles. C'est par exemple, on parlait du Rietir, où aujourd'hui c'est 14 ans l'âge minimum.
Donc, au Moyen-Âge, c'est 14 ans pour y participer.
Au Moyen-Âge, les enfants dès l'âge de 8 ans allaient dans les postes de montagne pour garder les moutons. Donc il faut imaginer un petit gamin de 8 ans tout seul dans une baraque de briques et de broc au milieu de nulle part. Et ben, il avait forcément l'oreille à entendre des bruits, à voir des choses. Et ça, ça s'est transmis en fait dans les longues soirées à la chandelle dans les maisons de tourbe, il n'y avait pas de fenêtre, on vivait avec le troupeau, et ben il fallait bien que l'imaginaire ait un refuge, sans quoi la vie aurait été noire et triste.
On les voit dans votre ouvrage, ces maisons de tourbe, comme vous dites. Il faut imaginer des maisons enterrées, on ne voit plus que dépasser les fenêtres, la porte et tout le reste autour, comme si la maison avait été mangée par la montagne, par la végétation.
Oui, complètement, c'est des maisons basses, on essayait de lutter contre le vent, on luttait contre le froid, donc en faisant venir les troupeaux dans la maison. Et puis les premiers Norvégiens qui sont arrivés, ils ont coupé le bois pour faire du bois de chauffage, pour se construire des maisons. Mais ils ont vu très vite que les forêts ne repoussaient pas. Ouais. Donc il a fallu apprendre à faire des maisons sans bois. D'où l'intérêt d'utiliser la tourbe pour les murs et puis l'herbe pour isoler les maisons par le toit.
C'est-à-dire que leur environnement les a façonnés, les a transformés, mais eux aussi ont d'une certaine manière transformé leur environnement. Puisque quand ils sont arrivés, les premiers colons, il y avait des forêts en Islande.
Ouais, aujourd'hui, il y a plus de forêt. Il y a environ 1% du territoire, alors qu'on estime qu'à leur arrivée, donc autour du 9e ou 10e siècle, il y avait 50% du territoire islandais qui était couvert de forêts. Mmh. On parle là de petites forêts, de forêts avec des arbres de 5 mètres environ, essentiellement des bouleaux. Aujourd'hui, il y a plus de forêts, mais on replante beaucoup, et on voit refleurir de plus en plus. Alors, c'est toujours pareil, c'est du bouleau ou du conifère. Il n'y a pas grand chose qui pousse en Islande, mais on trouve quand même des petites forêts. Ils ont une volonté de reverdir leur pays.
Ils sont très attachés à la sauvegarde de leur pays, de ses espaces naturels. Il y a un grand combat en ce moment pour faire un grand parc naturel sur l'île.
Oui, c'est un grand projet de parc naturel des Highlands, donc qui couvrirait entre 40 et 50% du territoire. Donc la moitié du pays serait sanctuarisé. Ça a été un grand combat de la chanteuse Björk, par exemple, qui s'est investie vraiment, qui est la passionnariat de la nature islandaise. Elle a beaucoup agi. Ce projet, il est sur le bureau de la Première Ministre depuis des années. Il n'est pas totalement ficelé, il pose des grandes questions, à savoir par exemple les fermes dont le territoire s'étend jusqu'à ce futur parc naturel national des Highlands, qu'est-ce qu'on en fait? Donc il y a des grandes questions et il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent que le développement de l'Islande passe par la construction de barrages hydroélectriques sur les puissantes rivières des Hautes-Terres pour alimenter les usines d'aluminium en aval. Et puis il y a la majorité des Islandais qui pensent que ça c'est une vision très court-termiste des choses et qu'à long terme, il faut préserver ce qui est le territoire le plus sauvage de toute l'Europe.
Ouais. Le paysage le plus sauvage de l'Europe, comment réagissent-ils face au changement climatique? Parce qu'ils sont touchés de plein fouet par ce changement.
Ouais, ils sont vraiment aux avant-postes du changement climatique, donc ils voient les glaciers reculer. Ouais. La lagune de Jökulsárlón, qui est aujourd'hui peut-être l'endroit le plus touristique de la côte islandaise au sud, n'existait pas en 1930. Ouais. Et elle s'agrandit chaque année jusqu'à devenir un véritable lac. Donc les Islandais font très attention à ça et ils ont récemment célébré la mort d'un glacier qui s'appelait Ökjökull.
Ah, célébré, ils l'ont enterré.
Ils ont mis une plaque pour se souvenir de ça. L'écrivain Andris Neyr Magnason a écrit un mot disant « Nous avons conscience de ce qui se passe. Vous, seule génération future, saurez si nous avons fait ce qu'il faut pour lutter contre ça. »
C'était en août 2019 qu'ils ont fait cette cérémonie d'adieu à ce glacier qui avait disparu entièrement. Quant au plus grand glacier islandais, alors il est gigantesque, hein, il fait à la taille de la Corse, ce glacier. Lui aussi, il disparaîtra un jour.
Oui, à la vitesse où vont les choses, les glaciologues estiment qu'il aura disparu en l'an 2300. Donc vous imaginez un glacier grand comme la Corse, avec un total de 300 langues glaciaires dans toute l'Islande, elles pourraient toutes avoir disparu d'ici environ 3 siècles.
Et puis, vous nous l'avez dit, les Islandais sont aussi confrontés à un tourisme grandissant, plus de 2 millions de touristes par an, c'était avant la crise du Covid. C'est quand même 7 fois plus que la population de l'île. Ils le vivent comment ça? Ils le vivent comme une chance ou comme une malédiction?
Quand le tourisme a commencé à vraiment prendre une force non maîtrisée autour des années 2010-2015, les Islandais se sont d'abord félicités parce qu'ils sortaient d'une grave crise financière et ça leur a permis de se retaper financièrement. Donc dans un premier temps, ça a été une bonne chose. Et puis par la suite, ils ont commencé à se poser des grandes questions. Où est-ce que ça menait? Donc ils ont laissé, contrairement au parc américain, par exemple, tout est gratuit en Islande. Il n'y a pas une seule attraction naturelle, il n'y a pas une cascade, il n'y a pas un glacier dont l'accès est payant, tout est gratuit. Ils se sont posé des questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un pass naturel, par exemple, faire payer à tous les touristes une taxe qui leur permettrait de défendre ces espaces? Mais c'est vrai qu'ils ont été un petit peu interpellés par le volume du tourisme. Bon, la crise du Covid fait qu'aujourd'hui, on est à peu près à un tiers du niveau qu'il y avait avant la crise. Donc ça reprend petit à petit. Et je crois qu'ils souhaitent que ça n'atteigne pas les niveaux que ça atteignait dans ces années-là.
La culture islandaise a de beaux jours devant elle, selon vous, Olivier Joly?
Je crois que oui. Les Islandais, comme on le disait, ils ont défendu leur langue. Ça, c'est très important. Dès qu'il y a un mot, par exemple, qui est créé par la technologie, les Islandais inventent l'équivalent. Alors, bon, quand les satellites sont arrivés, ils ont appelé ça des lunes artificielles. Quand les premiers ordinateurs sont arrivés, ils ont pris un mot très proche de sorcière. Tölva, völva. Ils ont vraiment trouvé des mots. Donc, encore aujourd'hui, ils défendent d'arrache-pied leur langue. Il n'y a que 350 000 personnes qui parlent cette langue. Mais c'est un trésor national. C'est la langue des Vikings. C'est la langue des sagas. Et ça, vraiment, ils veulent la défendre et ils sont très, très à cheval là-dessus. Et puis par ailleurs, il y a la culture islandaise. On a écouté des musiques islandaises. Les romanciers islandais commencent à être célèbres par le monde entier. Et je crois que de ce point de vue-là, la culture islandaise n'est pas en danger.
Pour découvrir l'Islande, on peut plonger avec bonheur dans votre très beau livre de photos en noir et blanc, Saga, aux éditions Emeria. Et vous nous avez gentiment offert quelques-uns de vos clichés saisissants que nous avons mis sur la nouvelle page Instagram du Temps d'un Bivouac et sur Facebook. Je signale aussi votre précédent ouvrage avec des photos en couleur, cette fois, 4 saisons en Islande, aux éditions Favre. Un grand merci à vous, Olivier Joly.
Merci, Daniel.
Le Temps d'un Bivouac replie sa tente. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur franceinter.fr. Il y a aussi l'appli Radio France pour les podcasts. À samedi prochain pour de nouvelles aventures. Dans un instant, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen poursuit son exploration des mystères du sommeil.